Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir un passage de notre Bible, et bonjour à tous. Voilà, je vous propose que nous fassions une méditation, c'est Jésus qui nous livre, eh bien, cette réflexion ce soir, donc c'est dans l'Évangile, et il pose un principe de vie, voilà. Et nous allons donc lire un passage, nous nous reporterons dans d'autres textes, mais on va commencer par celui-ci, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, et nous allons nous arrêter sur un verset en particulier, mais nous allons lire le paragraphe. Alors, voilà, Évangile de Jean, chapitre 16, verset 19. On commence par là. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Voilà. Que Dieu nous bénisse à travers ces quelques paroles, et nous voulons y apporter un commentaire, et cela pour nous encourager et peut-être fortifier certains et certaines qui ne perçoivent pas ou nous percevons pas toujours à travers les moments difficiles de l'existence, à travers peut-être toutes sortes de perplexités, qu'il y a un temps à tout. C'est vrai que, comme Jésus le dit, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Donc, entre les deux, il s'est bien passé quelque chose. Parce qu'autrement, on aurait continué à pleurer. Il y a toutes sortes de situations dans l'existence que nous pouvons interpréter de cette manière. Hein, connaissez l'adage, hein, après la pluie, vient le beau temps. Voilà, on pourrait dire ça d'une manière populaire, si vous voulez. Mais il y a un principe que j'aimerais mettre devant vous, parce que tout ce que nous en sommes, parfois nous sommes confrontés avec des situations qui nous rendent perplexes, nous nous interrogeons et nous disons « Mais comment dois-je comprendre et comment puis-je vivre cela ? Comment vais-je me sortir de cette situation ?» Alors Jésus va nous donner la clé. Il va nous donner une réponse, et je pense que les uns et les autres, nous ne devons jamais nous départir de quelque chose que Dieu laisse aux hommes, c'est l'espérance. Oui, l'espérance. Alors il y a, je sais, des optimistes nés. Même quand tout va mal, ils se disent « tout va bien ». Je dirais qu'ils n'ont pas tort, c'est vrai. Mais il y a aussi, et peut-être dans notre monde, on rencontre beaucoup plus de pessimistes et qui restent pessimistes. Tout va mal. Il n'y a aucune lueur dans leur vie. Alors, on a justement, eh bien, cet exemple qui nous est donné parce que Jésus va parler de quelque chose de terrible en ce qui le concerne. Il va parler qu'il va devoir mourir prochainement. Alors, on connaît la mort de Jésus. C'est certainement la mort dans l'histoire de l'humanité dont on parle encore, dont on parlera toujours. Dans notre monde, dans notre société occidentale, le christianisme, la mort de Jésus, elle est connue, naturellement. Alors pour certains, et certains qui sont des tenants de la croyance en Dieu, diront, bah oui, il est mort. Il est mort. Et ça s'arrête là. Mais pour le chrétien que nous voulons être, inspiré par l'Écriture et nous nourrissant du message de l'Évangile, pour nous, Jésus est mort, mais il est ressuscité, donc il est vivant. Et ça change tout. Alors, Jésus est en train d'entretenir ses disciples, parce qu'ils avaient vécu quand même pendant 3 ans ensemble, ils avaient vu des choses extraordinaires, formidables. Et puis voilà qu'à un moment donné, il va les surprendre. Oh, il va littéralement ils vont être, par la nouvelle que Jésus va leur donner, ils vont être pulvérisés en quelque sorte. Ils vont dire, mais c'est pas possible, toi tu ne peux pas mourir. Alors il va leur expliquer qu'il doit mourir. Et nous avons justement, cette histoire qui nous est rapportée. Jésus avait dit, je partirai, mais je reviendrai. Vous ne me verrez plus, mais vous me verrez encore. Donc il y en a qui s'arrêtent à la première proposition, vous ne me verrez plus. Alors ils sont restés là-dessus. Dans les pleurs, dans le doute, dans l'incrédulité, et ça s'est arrêté là. Et puis pourtant, il le dit après, et c'est à nous de retenir cette parole, mais vous me verrez à nouveau, parce que finalement, la mort n'aura pas raison sur ma vie. Je vais donc revenir. Alors, il le dit, je ne vais pas relire, mais il dira ceci, mais en vérité, je vous le dis, vous qui m'avez connu, vous mes disciples, mes amis, vous pleurerez quand vous me verrez mourir. Parce que la mort de Jésus, c'est quand même quelque chose d'horrible. Il n'y a pas plus de choses aussi abominables que la crucifixion. Et vous pleurerez à cause de ça. Vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira de ce que, finalement, on m'a mis à mort. Parce que on me considère comme un imposteur. On me considère, comme un faux messie, comme un faux prophète. Et les gens se frotteront les mains en disant, voilà, on s'est débarrassé de quelqu'un qui voulait bouleverser le monde. De quelqu'un avec un message, avec des miracles, avec des choses venant du ciel. Le monde et le cœur du monde est resté fermé, alors ils l'ont crucifié. Alors ils vont se réjouir, parce que le message de Jésus est quand même, somme toute, dérangeant. Surtout pour l'institution religieuse du temps, c'est-à-dire le judaïsme. Comme aujourd'hui, même pour toutes les institutions religieuses, même chrétiennes, Jésus est dérangeant parce qu'il remet, beaucoup de choses en cause. Alors, vous pleurez, mais le monde se réjouira. C'est quand même curieux, de devoir se réjouir de la perte du bien et de la vérité et de la justice. Et pourtant, ainsi va le monde, il n'a pas changé. Mais il ajoutera cette parole sur laquelle nous allons réfléchir quelques instants. Il dit ceci, « Vous serez, vous, dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Elle se changera en joie. Et il va prendre un exemple que seuls, mesdames, vous pouvez parfaitement comprendre, parce que nous, les messieurs, on est en dehors. Vous comprenez ? Un principe essentiel de la vie. Et il ajoutera, c'est une image, une parabole, si vous voulez. Il dira à la femme, « Lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Toutes les mamans qui sont là, je pense que vous êtes probablement d'accord, avec une appréhension, surtout quand c'est la première fois. Mais pour avoir accompagné nos épouses, on sait que c'est un moment certes difficile, mais néanmoins, après avoir peut-être pour certaines eu une grossesse difficile, une fois que les choses sont passées, alors un homme est rentré dans le monde, un homme est venu, un petit homme, un petit bonhomme si vous voulez. À ce moment-là, il semblerait qu'il y a quelque chose qui remplace toute cette appréhension et les souffrances. C'est véritablement la joie, l'allégresse. Une femme est heureuse parce qu'elle a mis au monde un enfant. Alors, je voudrais simplement ajouter ceci autour de cette question, c'est que la venue au monde d'un enfant se trouve être l'aboutissement d'un processus complexe. Comment un petit bonhomme peut-il, pendant 9 mois, se construire. Et déjà, à l'état d'embryon, de fœtus, devenir ce que nous sommes. Et le monde a fonctionné comme ça depuis toujours. Alors c'est à la fois complexe. Maintenant, c'est vrai que la science a découvert le principe, et c'est fort intéressant. Mais c'est aussi merveilleux. On se dit, mais comment tout cela peut-il se construire? Comment cela peut-il se faire? Et c'est littéralement merveilleux quand on regarde par, finalement, eh bien, la fenêtre de la création. Hein? C'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas un accident dans un univers d'accidents, hein, comme certains le présentent. Alors, je dirais que l'exemple fantastique de la grossesse et de l'enfantement semble ne pas avoir échappé à Jésus, dont il a su s'inspirer pour nous enseigner sur le monde spirituel. C'est-à-dire non pas le monde matériel, non pas le monde humain, le monde naturel, mais celui qui vient après, celui qui est plus haut, le monde spirituel. Et ça, c'est quand même formidable, parce qu'on appelle ça le miracle de la vie. Que ce soit la vie physique, ou que ce soit la vie spirituelle, et ce soir, on va s'entretenir de la vie spirituelle. Eh bien, nous nous apercevons que il y a quelque chose que Jésus a voulu souligner, le miracle de la vie dans le royaume de Dieu. Nous, nous sommes dans le royaume de la terre. Nous sommes matière. Nous avons là un corps. Par la naissance, nous sommes dans la corporalité, avec toutes les facultés que nous pouvons, dont nous disposons. Mais il y a aussi en parallèle, et Jésus le souligne, et on va en parler, vous allez voir, c'est assez étonnant, extraordinaire, voire merveilleux, c'est qu'il y a aussi le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume spirituel. Jésus utilise cette image, somme toute très saisissante, de cette femme qui va donner la vie. On l'a lu, il y a un instant, je vais simplement le relire. Il nous est dit, lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse dans un premier temps, parce que, eh bien là, les choses vont arriver. Mais lorsqu'elle porte cet enfant, elle le tient sur son sein, qu'elle le regarde, garçon ou fille, ça n'a pas d'importance. Alors c'est toujours le plus beau bébé de tous les... Hein, il n'y en a pas un autre qui soit plus beau, hein, c'est pas possible autrement. Et là, elle éprouve une joie extraordinaire. Elle a été capable de donner un homme à la terre. Oui. D'ailleurs, c'est comme ça qu'Ève a trouvé son nom. Ève, vie. Et Dieu lui dira, parce que tu as donné la vie à un homme. Alors, on s'aperçoit que il y a quand même des principes qui sont là. Et nous nous apercevons que, au départ, eh bien, Jésus va évoquer le lien qui unit la vie à la souffrance. Ouais. D'abord la souffrance, et après le bonheur et la joie. Dans le livre de la Genèse, au moment de la catastrophe initiale de cette rupture entre le Créateur, enfin, entre la créature et le Créateur, il nous est dit que l'humanité va être chargée, ou elle va se charger elle-même, eh bien, de cette souffrance, puisque Dieu s'adressera à la femme. Il lui dira maintenant, tu vas enfanter dans la douleur. C'est terrible cela. Et depuis, malgré les moyens, certainement, que les hommes ont trouvés pour aider, finalement, à apporter, à amener à la vie, bah, ça se passe toujours quand même dans la douleur, malgré tout. Hein. Malgré tout. Alors, il est question de douleur, il est question de tristesse, il est question voire d'angoisse. Et au moment de l'ultime séparation, c'est-à-dire la venue au monde de cet enfant qui va être séparé de sa mère, eh bien là, les choses vont changer. Et en contraste, Jésus met en comparaison tout ce que toutes les mamans éprouvent lorsque, après la peine, elles étreignent ce petit enfant, tout simplement, le sujet de leur attente, et elles éprouvent une grande joie qui fait oublier en un instant tout le chagrin ou les chagrins, les difficultés, les problèmes, tout ce qu'elle a pu connaître, toutes les appréhensions vont disparaître en un instant. Alors on va rester sur cette pensée. La douleur, puis la peine, la joie, pardon. Jésus fait comprendre à ses disciples le processus que lui-même va connaître par sa mort pour enfanter une nouvelle humanité. Écoutez bien. C'est le principe de l'évangile. L'évangile, quand on le découvre, eh bien, c'est ça. Jésus est un homme. Mais à travers sa mort, à travers les souffrances, à travers ses indicibles peines, tout ce qu'il a pu connaître, il va donner la vie à une nouvelle humanité que l'on appelle les chrétiens. Le christianisme est né de la croix de Jésus, il est né à la croix par la mort de Jésus. Et on sent et on le sait, quand Jésus, juste avant d'aller à Golgotha, dans ce jardin de Gethsémané où il nous est dit qu'il a pleuré, il a souffert, il a connu l'angoisse, il a connu l'agonie, à tel point que il perlait sur son front des grumeaux de sang. Ça, c'est l'angoisse avant. Et nous voyons qu'il va nous l'expliquer. Je vais être simple ce soir, mais suivez quand même cette pensée. Lui-même va le connaître. C'est pour ça qu'il a, il parle de la femme qui va enfanter, du chagrin à la joie. Et c'est pour ça que quand les disciples viennent lui dire « Mais comment se peut-il se faire ?» Il va dire « Voilà le principe. Voilà, c'est pour donner naissance. C'est pour faire naître de nouveau. C'est pour amener les gens à la confiance, à la foi, à l'espérance. S'ils regardent en moi et s'ils véritablement mettent toute leur foi en moi, alors il va falloir qu'ils meurent. En quelque sorte, c'est une forme de mort pour la femme. Elle va donner la vie et malheureusement, il y en a eu des milliers et des milliers. Je ne voudrais pas impressionner les futures mamans, mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a quand même véritablement une aide pour ça. Mais il y a eu des milliers et des milliers de femmes qui ont donné leur vie pour donner la vie à leur enfant. Elles sont mortes. Mais bon, aujourd'hui, c'est bien. Et merci Seigneur qu'il en soit ainsi. Mais quand même, eh bien, la même chose pour Jésus. Il a fallu qu'il meure pour donner naissance à une nouvelle humanité. Et quand au verset 20, il est dit ceci, je voudrais simplement relire cette parole. En vérité, je vous le dis, vous pleurez, vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira. C'est vrai. Parce qu'il y a tout un contraste. Et ça, c'est véritablement ce qui s'est passé à la croix du calvaire. Le monde entier s'est réjoui de ce que Jésus mourait. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que Jésus allait mourir pour ressusciter, pour donner la vie. C'est le principe. En conséquence, les hommes qui croient en Jésus, connaîtront les douleurs de la repentance, parce que ça passe par là. Et la mort du vieil homme, de ce que nous sommes en tant qu'êtres pécheurs, et le renoncement à nous-mêmes. Il y a trois principes dans l'Évangile pour vivre une nouvelle vie. C'est la repentance. C'est la prise de conscience que nous avons indifféré Dieu, que nous avons maudit Dieu, que nous ne nous sommes pas intéressés à lui, que nous l'avons peut-être là complètement délaissé, que nous l'avons injurié, enfin, tout ce que l'homme est capable naturellement, que nous avons fait le contraire de ce qu'il voulait que nous fassions, pour que nous puissions accéder à son bonheur à lui. Mais nous avons fait le contraire et le malheur est arrivé. La repentance, Seigneur, je te demande pardon et maintenant je veux commencer une vie nouvelle. Je regrette profondément. Je te demande véritablement de me pardonner ma faute, mes fautes et mes péchés. Ça s'appelle la repentance. La conversion, c'est un choix. Je ne vais plus suivre n'importe qui, à commencer par moi-même, mais maintenant c'est Jésus que je veux suivre. Il devient, après la repentance où il est mon sauveur, la conversion, il devient mon Seigneur. Et il va me donner une nouvelle vie, c'est-à-dire que je vais naître de nouveau. Donc il y a ces douleurs. Quelqu'un qui entend l'Évangile, quelqu'un qui découvre l'Évangile, pour la première fois, les premières fois où il lit la Bible, et qui est touché par cette parole, qui est bouleversé par le Saint-Esprit, parce qu'il se dit, mais c'est quelque chose qui me touche profondément. Et il y a l'Esprit de Dieu qui travaille pour nous amener justement à cela. Eh bien, il passe par une certaine forme de souffrance. Vous en souvenez-vous pour vous qui connaissez le principe? Nous avons pleuré. Nous avons été profondément malheureux. Il y avait comme une conviction de péché à l'intérieur de nous-mêmes et nous nous sommes lamentés en disant « Seigneur, je suis perdu, mais sauve-moi ». Alors il y a cette souffrance et cette douleur de la repentance, de la conversion, de la mort à ce que nous sommes, avec mes péchés, avec mon égoïsme, avec ma mauvaise langue, avec mes haines et mes ressentiments contre l'un, contre l'autre, à travers toutes sortes de choses qui font partie de la nature humaine. Et il y a eu une bagarre, il a fallu que je lutte. Il a fallu que je lutte pour arriver à m'abandonner entre les mains de Dieu parce qu'il y a des choses que je ne voulais pas lâcher. Il y a des choses sur lesquelles je ne voulais pas capituler. C'est le moi, ça. Mais toutes ces souffrances préludent la régénération. C'est pour ça que nous pouvons en parler savamment aujourd'hui et te dire, mais quel bonheur, Seigneur. Quel bonheur, je suis passé par là, mais aujourd'hui, tu m'as donné une nouvelle vie et tu as remplacé mes tristesses par la joie. Tu as remplacé mes angoisses par la paix intérieure. Tu as remplacé, finalement, eh bien là, toutes mes perplexités par des assurances et des certitudes. Tu as balayé le doute pour me donner une véritable conviction. Il y a eu ce processus, naturellement. C'est ce qu'on appelle la régénération, une vie nouvelle. Et à la naissance d'une vie nouvelle, eh bien déjà, nous voyons et nous en trouvons, et c'est ce qui fait notre bonheur, nous entrevoyons une vie que Jésus appellera la vie éternelle, c'est-à-dire le salut de l'âme. Nous le voyons déjà, nous le savons, nous en avons la conviction. Vous posez la question à un chrétien, non pas un chrétien de nom, mais un chrétien, et vous lui posez la question, es-tu convaincu, es-tu sûr que tu es sauvé ? Vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il ne va pas hésiter un instant. Si vous posez la même question à un croyant qui, quelque part, n'a jamais établi sa foi en Jésus, il vous dira, comme je l'ai entendu des centaines et des centaines de fois, j'espère, mais espérer, c'est pas être convaincu. J'espère peut-être que. Alors, nous voyons que cette vie éternelle, comme Jésus en parle à la Samaritaine, eh bien, il lui promet qu'elle jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est une ressource, c'est une source intarissable à l'intérieur de nous-mêmes. Alors Jésus pouvait dire, mais votre tristesse sera changée en joie. Et je crois que quand même, il faut le dire, que chaque conversion est toujours une sorte d'enfantement. Pourquoi les gens viennent-ils écouter l'évangile? Pourquoi les gens lisent-ils la Bible? C'est parce qu'il y a bien quelque chose derrière. La Bible, c'est pas un livre de littérature, un livre d'histoire seulement, c'est pas un livre de sagesse, c'est tout ça à la fois, si vous voulez. Et c'est un livre qui est empreint de l'Esprit de Dieu, et c'est Dieu qui parle aux hommes pour les sauver, pour leur faire du bien, et ne pas continuer une vie d'errance et de médiocrité. Il y a tant de souffrances autour de nous, alors que tout pourrait changer du jour au lendemain, si nous voulons véritablement écouter ce qu'il a à nous dire. Et le message que nous partageons ce soir, permettez-moi de le dire, c'est un message qui est à destination de tous ceux et de toutes celles qui éprouvent les douleurs à mettre au monde. Quelque chose de nouveau. Oui. Les générations ou la régénération de l'humanité, c'est quand des hommes naissent. Puis après, il y en a d'autres qui partent, mais ils naissent. Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la vie morale, la vie spirituelle, avec ce que nous avons dit. Et ce que je voudrais dire, pour vous qui l'écoutez, puis pour tous ceux qui l'écouteront d'une autre manière, eh bien, c'est si vous éprouvez quelque part des douleurs, des souffrantes, qui vous posent question, qui vous dites, mais pourtant je prie Dieu, c'est d'une question que nous avons parlé mercredi soir. Quelqu'un a posé la question et me dire, mais je prie et finalement c'est le contraire qui se produit. Eh bien, il ne faut pas se décourager parce qu'à un moment donné, vous allez voir que les choses vont être tout autres. Oui. Souvent les gens sont perplexes en se disant, mais j'essaie de m'approcher de Dieu, j'essaie de lui plaire, j'essaie de comprendre ce qu'il veut pour moi et dans un premier temps, il semblerait que ça soit le contraire. C'est comme s'il y avait une opposition pour m'approcher de Dieu. Alors, peut-être que vous éprouvez, vous aussi, les douleurs d'une sorte d'enfantement à mettre au monde quelque chose, mais peut-être à mettre au monde une espérance à réaliser. Vous êtes porteur de quelque chose que vous avez au fond de vous-même, et vous dites, ah, ça serait le bonheur, si. Alors, c'est peut-être ça, cette douleur. C'est peut-être l'espoir d'une vie nouvelle, parce que la vie dans laquelle vous êtes, eh bien, c'est une vie dans laquelle vous tournez en rond. Et vous voyez pas de perspective, ni à droite, ni à gauche. Et vous aimeriez qu'il en soit autrement. Et que vous puissiez vraiment réaliser ce pourquoi vous êtes dans ce monde. C'est peut-être les douleurs sur le plan moral ou sur le plan spirituel. Parce que vous voulez atteindre passer certaines frontières et aller un petit peu plus loin. C'est peut-être les douleurs d'un projet qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas pu réaliser. Et qu'à chaque fois que vous vous approchez de ce projet, il est en quelque sorte comme un mirage. Vous avancez, il fuit un petit peu plus loin. Et vous en souffrez. Ce sont les douleurs aussi. Ce sont peut-être les souffrances liées à une vie contestée. Parce qu'on vous aime pas, ou on vous aime plus. Et vous vous sentez rejeté. Et vous dites, mais quand est-ce que les choses seront autrement? C'est peut-être les souffrances d'un enfantement devant les peines de l'injustice humaine. Parce que on vous a fait subir toutes sortes de sévices, on a dit toutes sortes de choses sur votre compte, et vous en souffrez. Et vous dites, eh bien, moi j'aimerais bien que les choses, finalement, eh bien, en finissent avec tout cela. C'est peut-être les douleurs des dualités que vous avez à l'intérieur de vous-même, c'est pas l'extérieur, mais c'est vous-même. de votre vie intérieure, tous ces combats, toutes ces luttes, la dualité. C'est peut-être les souffrances des paradoxes de la conversion. Simplement vous dire entre guillemets, quand j'ai commencé à la Bible, j'avais une vingtaine d'années, et il y a une chose qui s'est passée, cette dualité, vous savez, que nous pouvons comprendre, que nous pouvons vivre. C'est que plus je m'approchais de cette parole et que je la lisais, elle créait en moi comme un grand bonheur, comme un grand espoir, et à côté de ça, je ressentais comme s'il y avait quelque chose qui me repoussait en arrière, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Alors il a bien fallu une victoire à un moment donné, et j'ai éprouvé une tristesse, et en même temps j'ai éprouvé une joie. C'était contradictoire, comme si quelqu'un voulait m'empêcher d'aller plus loin. Heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça, parce que je ne serai pas devant vous ce soir. La victoire, eh bien, elle a été remportée, mais on peut le vivre. C'est peut-être cette douleur d'enfantement, de prendre la victoire sur le mal, peut-être sur un pardon que nous devons donner à quelqu'un et que nous n'arrivons pas parce que nous sommes remplis de ressentiment. Il y a des avancées, des reculades. C'est peut-être ces batailles éprouvantes pour reconquérir votre santé. Un jour ça va, un jour ça va pas. C'est peut-être aussi l'équilibre de votre vie parce que vous avez été tellement malmené et que vous avez essayé tellement de choses pour trouver le bonheur, que ce soit la drogue, l'alcool, enfin tout ce que vous voudrez, tout ce qui peut être consommable et consommé dans ce monde pour nous emmener dans des paradis artificiels et illusoires. Alors vous voulez vous en débarrasser et vous passez par une douleur. Comme celui qui se drogue, à un moment ou à un autre, quand il arrête la drogue ou le médicament, eh bien il passe par le poulet froid, vous savez ce que c'est ? Je peux vous dire qu'il tremble à ce moment-là. Et l'alcool, c'est la même chose. Alors, ça peut être ça. C'est peut-être toutes ces peines devant les combats pour trouver la paix intérieure, la joie sur la tristesse, pour vaincre la peur, la culpabilité. Oh, la culpabilité. Certains ne peuvent pas faire un pas sans qu'ils s'auto-accusent, s'ils ne sont pas accusés par les autres. Et ils sont profondément malheureux. Et là, il y a une dualité, il y a une lutte, il y a un combat, il y a une guerre à l'intérieur de vous-même. Alors, c'est une douleur d'enfantement pour arriver, eh bien là, à quelque chose, pour trouver le repos de la conscience, parce que nous avons fait des choses qui sont toujours en train de revenir, de notre passé, de notre histoire, qui nous revient en pleine figure et qui nous écrase. Pour trouver le repos de nos âmes, dans nos pensées, autant d'enfantements douloureux, couronnés de joie, lorsque finalement nous avons passé cette frontière, et c'est un véritable soulagement. Écoutez, je relis. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est entré dans le monde. Ainsi donc, nous dit Jésus. Ainsi donc, c'est en quelque sorte une forme de conclusion. Retenez bien. C'est Jésus qui nous le dit. Vous êtes maintenant dans la tristesse, parce que vous avez des luttes, des combats, parce que votre vie est une vie chahutée, une vie malmenée, vous êtes comme une coquille de noix sur un océan en tempête. Et vous n'êtes pas les seuls. Hein. Alors, vous éprouvez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai. Je viendrai à vous, nous dit Jésus. Je vous ai envoyé ma parole, c'est ce que nous faisons ce soir. Et ce n'est pas une parole de condamnation, mais c'est une parole qui nous encourage et qui nous exhorte à regarder à lui et nous attendre à sa venue. Le Seigneur est là ce soir. Moi, j'en suis convaincu. Vous savez, on n'est pas à une messe. Hein. On n'est pas dans un office religieux. On ouvre simplement la parole de Dieu, nous sommes en train de méditer. Et je crois que le Saint-Esprit est là pour nous parler les uns et les autres. Alors ouvrons notre cœur. Et Jésus dit, mais je viens vers toi. Ne te décourage pas dans tes luttes, ne te décourage pas dans tes souffrances, ne te décourage pas dans tes désespoirs, parce que il y a un enfantement, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension, et tu vas voir ce que c'est que la joie, tu vas voir ce que c'est que la paix à l'intérieur de toi-même, tu vas voir ce que c'est que la lumière, la vérité. C'est pas la lumière d'une religion, ce n'est pas la lumière du centre évangélique ou du pasteur que je suis. Ça serait illusoire, et je vous tromperais, mais c'est la lumière qu'est Jésus, puisqu'il a dit lui-même, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, et celui que je vous engage à suivre, c'est Jésus. » Et là, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Alors, je vous reverrai. Mais il n'y a que ceux qui veulent bien se prêter à entendre cette parole, et à dire au fond de leur cœur, « Mais Seigneur, viens. Seigneur, je t'accueille. Seigneur, donne-moi ta grâce, donne-moi ta paix. » Je suis prêt à t'accueillir. Et votre cœur à ce moment-là se réjouira. Et c'est pour cela que je le vois souvent lorsque les gens viennent quelquefois dans nos réunions et quand ils se convertissent à Jésus-Christ. Ils viennent, ils sont écrasés par toutes sortes de fardeaux et une vie impossible, parce qu'on en entend des histoires, hein, je peux vous le dire. Hein. Des blessures, des meurtrissures, ils ont été piétinés, écrasés, pilonnés. Certains arrivent en petits morceaux et il faut qu'ils se reconstituent, il faut qu'ils se refassent. Alors, on s'aperçoit que souvent ils sont là en pleurant. Combien de fois nous avons accueilli des gens en larmes, hommes et femmes, des enfants, des jeunes gens, et après avoir entendu ce message, parce qu'ils ont bien ouvré, ils ont bien voulu ouvrir leur cœur et faire confiance à Jésus. Alors après, il y a une grande joie. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on chante des cantiques. On chante pas pour la tradition. On chante pas parce qu'il faut faire bien, il faut introduire le, hein, tout simplement, et bien là, ce moment de réunion. C'est pas ça. Mais quand on chante, si vous n'êtes pas venu un dimanche matin, venez un dimanche matin, vous allez voir. Alors à ce moment-là, on chante parce qu'on exprime notre joie et notre bonheur de connaître le Seigneur. Et c'est pas des litanies, hein. C'est vraiment quelque chose de vécu. Alors, votre cœur se réjouira et nul ne ravira votre joie. Parce que cette joie, ce n'est pas une joie humaine, ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances et de votre vie, mais c'est une joie qui dépend du ciel. Elle vient d'en haut. Elle est profonde. Et là, ça change tout. Ça change tout. En ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. Oh Seigneur, on ne peut pas dire qu'on connaît tout. Je suis encore tellement ignorant moi-même. Mais Seigneur, j'ai compris une chose. Comme vous l'avez compris vous-même. C'est que le Seigneur nous aime. Et ça, ça change tout. Et de savoir qu'on est aimé. Comment puis-je être aimé d'un Dieu invisible, d'un Dieu que je ne vois pas? Mais lui, il me voit, il me connaît. Et il m'appelle. Alors, vous ne m'intéresserez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Oui. Seigneur, un jour, je t'ai demandé de pardonner mes péchés et tu m'as pardonné. Et je le sens, hein. Quel fardeau est tombé de mes épaules et quelle joie à ce moment-là, soulagement de mes pensées et de ma conscience. Seigneur, un jour, je t'ai demandé de me sauver. Et véritablement, je sais que je suis sauvé. Comment vous le dire? Comment vous l'expliquer? Je sais. Je sais que je sais, c'est tout. Ne m'interrogez pas. C'est une conviction intérieure. Et je vous dis pas ça. Ouais, je suis sauvé. Non. Je le dis parce que vraiment, c'est un bonheur. Hein. Un bonheur, c'est une conviction. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Et ça s'adresse peut-être à ceux et celles qui n'ont rien demandé encore. Eh bien, allez-y, demandez au Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, et vous allez voir comment il va vous répondre. Demandez avec foi, demandez comme un enfant peut demander à son père, demandez dans la simplicité, avec humilité. Alors demandez, vous allez recevoir naturellement. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. On a souvent présenté le christianisme comme quelque chose de terrible, qui était véritablement, eh bien là, une doctrine rabat-joie, où les gens là vont la tête courbe dans leurs épaules. Ah là là, qu'est-ce que c'est difficile d'être chrétien. Vous vous rendez compte? Mais c'est ça. Oui, je comprends qu'il y a un christianisme comme ça. C'est le christianisme de la loi, c'est le christianisme légalisme. Mais le christianisme de la grâce, c'est un christianisme qui libère et qui nous rend véritablement heureux. En tous les cas, moi j'ai opté pour le christianisme de la grâce. Parce que c'est tout. Et ça me permet de vivre et d'assumer ma vie et de pouvoir la vivre en abondance sous le regard de Dieu. Et avec la paix que le Saint-Esprit met au fond de moi-même, afin que votre joie soit parfaite. Et je vais terminer sur un autre texte, et vous allez comprendre combien Dieu est bon, et que c'est véritablement ce christianisme-là, celui de l'Évangile, de la foi en Jésus-Christ, qui nous libère de la culpabilité, qui nous libère de la peur, qui nous libère de tout. Écoutez bien cette parole, Ésaïe 54, je vais lire quelques phrases, simplement, Ésaïe 54, verset 1er et après, ensuite nous passerons verset 7. Écoutez bien, vous connaissez ce passage. Réjouis-toi, toi qui es stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ouais. Réjouis-toi, toi qui es stérile. Monde stérile sans Dieu. Stérilité morale et spirituelle de notre humanité. Et pourtant Dieu s'adresse à cette humanité-là pour dire « Eh bien, réjouis-toi, parce qu'il se prépare quelque chose pour toi. Et cette préparation, elle passe par l'écoute d'une bonne nouvelle qui s'appelle la bonne nouvelle de l'Évangile, la nouvelle de Jésus-Christ. Tu n'enfantes plus, tu n'espères plus, tu ne crois plus en rien. Eh bien, fais éclater ton allégresse et ta joie, parce que tu ne ressens même plus les douleurs. Tu te demandes ce qui va arriver après toi et qu'est-ce qu'il y aura. Non, eh bien, réjouis-toi. Et puis le verset 7, il est dit ceci, « Quelques instants, dit Dieu à Israël, parce que ça s'adresse à Israël, quelques instants je t'avais abandonné, oui, mais avec une grande affection je t'accueillerai. » Eh bien, c'est justement ce qui nous amène à considérer ce que Jésus nous disait par rapport à la femme qui est en grossesse et qui va bientôt enfanter. Dans un premier temps, il semblerait que Dieu ne soit pas là. Que Dieu ne soit pas là parce que nous souffrons, parce que nous assumons la souffrance et la peine seuls. C'est comme ça que les gens autour de nous le vivent. Mais il n'y a pas de Dieu, parce que s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ces injustices, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas toutes ces atrocités et ces abominations qui existent. Et pourtant Dieu le dit, quelques instants, je t'avais abandonné. Il t'a semblé que je n'étais pas, que je n'existais pas, qu'il n'y avait pas de Dieu, ni sur la terre, ni dans le ciel. Quelques instants, je t'avais abandonné. Mais vous savez, quelquefois, Dieu se fait discret, il se cache pour que nous le cherchions et que nous arrivions à le trouver. Et il se laissera trouver si véritablement nous sommes déterminés à le chercher. Alors je t'avais abandonné quelques instants, mais avec une grande affection. Moi, ce Dieu que tu ne connais pas, tu ne connais pas mon amour? Tu ne connais pas ma grâce? Alors je te parle de mon affection qui est grande. Alors à ce moment-là, je t'accueillerai. Si tu cries à moi, si tu me demandes, eh bien mon secours, je te l'accorderai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort sur la croix du calvaire? Qu'est-ce que Jésus a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu n'a jamais abandonné Jésus. Parce qu'on sait ce qui s'est passé après. Jésus, dans un instant, s'est senti peut-être lâché par le ciel. Mais il le dira tout de suite après, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après, il a ressuscité. Dieu n'abandonne jamais. Il nous semble, nous, que Dieu nous abandonne, qu'il n'y a pas de Dieu, mais il y en a un, et il est vivant. « Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. » Un amour éternel. Ouais, c'est pas un amour passager, c'est pas un amour sentimental, c'est pas un amour tout simplement fugitif, hein, où Dieu aurait une effusion à un moment ou un autre, mais ça s'appelle de la compassion, il souffre avec nous. Alors, il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Ça, c'est la version humaine de notre conception de Dieu. Écoutez la suite. Écoutez, c'est un des plus beaux textes de la Bible. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Vous voulez qu'on le chante tout à l'heure? Parce que c'est un cantique que là, on le chante. Et on va le chanter de tout notre cœur. Hein. Il est beau. À deux voix, même à quatre si vous voulez, hein. Peut-être un peu plus difficile, deux c'est déjà pas mal. Hein. Quand les montagnes dit Dieu, et il nous le dit à chacun d'entre nous, ne repartez pas en pleurant ce soir, repartez dans la joie et dans l'allégresse, parce que vous avez entendu la parole de Dieu qui s'adresse à chacun d'entre nous. Quand les montagnes s'éloigneraient, imaginez-vous qu'il n'y ait plus les Alpes. Ni les Vosges, ni le Jura, ni les Ardennes, ni le massif armoricain, qui culmine, quand même, hein. Ni les Pyrénées, ni l'Himalaya et tout ce que vous voudrez. Eh bien, c'est pas demain la veille, hein, que les montagnes, finalement, s'éloigneraient. Parce que la montagne inspire à l'homme la solidité, la fixation au cœur de la terre. Alors, il le dit, mais quand les montagnes s'éloigneraient, si les collines, comme nous en avons dans notre pays, eh bien, si elle chancelait, c'est-à-dire que finalement il y avait un tremblement de terre gigantesque, eh bien Dieu nous fait la promesse, mon amour ne s'éloignera point de toi. Nous avons vraiment besoin les uns et les autres, quelle que soit notre dimension spirituelle et notre marche avec le Seigneur, je parle aux chrétiens, aux engagés, je parle peut-être aussi à ceux qui nous rejoignent. Eh bien, croyez bien, que Dieu nous le dit à chacun d'entre nous. Oui, mon amour est plus solide que les montagnes. Mon amour est plus grand que les collines. Alors à ce moment-là, je peux t'assurer que ce que j'ai fait pour toi, en donnant Jésus-Christ pour ta vie, pour que tu puisses vivre, que tu puisses passer par une vie nouvelle, eh bien, ça ne s'éloignera jamais de toi. Il faut que tu le croies. Et mon alliance de paix ne changera point. Il y a l'amour et la paix. Est-ce que ce n'est pas ce que le monde attend? Est-ce que ce n'est pas l'aspiration, eh bien, de tous les hommes qui apparaissent sur cette terre? L'amour de Dieu et la paix de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et mon alliance de paix ne changera pas, dit l'Éternel, parce que il y a une chose qui fait partie des attributs, des prérogatives de la nature même de Dieu, du caractère de Dieu, c'est la compassion. Et vous savez, le mot compassion est utilisé dans un cas particulier. Là où il y a de la souffrance, là où il y a de la misère, là où il y a de la peine. Et la compassion, en latin, compassio, ça veut dire souffrir avec. Souffrir avec. Et Dieu souffre avec nous. Quand Jésus est venu, né dans une crèche, ayant vécu 30 ans parmi les hommes, mourant sur une croix, eh bien c'était la manifestation de la compassion de Dieu, le Créateur, pour les hommes, pour cette humanité souffrante, pour qu'elle puisse passer de la souffrance à la joie et à l'allégresse éternelle. Tout simplement. Et ça s'appelle le salut. Alors que Dieu nous bénisse. Parce que notre Créateur, il veut être aussi notre Sauveur. Tout simplement. Et il nous le dit, il nous le rappelle. Alors vous en souvenez? Quand la femme commence à éprouver finalement son heure, elle éprouve du chagrin, de la peine, des appréhensions, c'est tout à fait naturel. Mais à un moment donné, quand le petit bonhomme est là, un homme est né dans le monde, eh bien, elle se réjouit. Et moi, je vous dis, comme Jésus le dira dans l'évangile de Luc, quand un homme se convertit, il se repent. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 90 qui ne pensent que finalement, ils n'ont pas besoin de Dieu. Alors c'est ça, la véritable joie. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. Et puis mesdames, prenez courage. Puis les messieurs aussi. Que Dieu nous bénisse. Voilà, on va prier simplement. Remercier le Seigneur pour cette parole. Que les montagnes ne chancelleraient jamais. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous te bénissons, Seigneur. Parce que nous croyons que ta parole est la vérité. Que ta parole est la vie. Que ta parole nous est destinée, Seigneur. C'est une bonne nouvelle. Alors c'est vrai que nous avons vraiment besoin de faire cette relation. Entre Père éternel, toute notre humanité, Seigneur misérable, mais Seigneur, nous croyons que tu ne l'as pas laissé dans cet état. Tu es venu, Seigneur, nous donner un enfant, né dans une crèche, qui est devenu un homme. Et cet homme, c'est vraiment l'homme de Dieu, pour sauver les hommes perdus. Alors merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que nous croyons, Père éternel, que quelquefois les choses dans la nature vont à l'inverse. Les hommes passent de la joie frivole, de la joie exubérante, de la joie en effet irraisonnée, eh bien, Seigneur, au chagrin. Mais nous savons qu'après, tu nous reprends et tu nous fais passer de notre chagrin, que souvent nous en sommes les artisans, pour nous ramener à la joie, mais une joie d'une autre nature, une joie, Seigneur, d'une autre qualité. Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, donne-nous de comprendre ces paroles ce soir et de réaliser, Seigneur, que tu n'es pas venu pour condamner et rejeter le monde, mais tu es venu pour l'attirer à toi afin que ce monde-là puisse te demander, Seigneur, tout ce que nous avons besoin en Jésus-Christ, et tu sauras nous l'accorder, à commencer par le pardon, à commencer par la paix, par la joie, à commencer par le salut. Merci, notre Dieu. Merci pour la vie. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.